C'est depuis le micro de la BBC son appel du 18 juin. Ne mâche pas ces mots. J'espère qu'elle est crevée, la salope. Elle l'est. Paul Reynaud lui en réchappe alors que l'armistice s'apprête à être signé. Avant que l'armistice soit signé le 22 juin, craignant pour leur sécurité, Édouard Daladier et Marie-Louise de Crussol ont rejoint l'Afrique du Nord à bord du paquebot Massilia. Puis leurs chemins se sont séparés dans le désordre que se met dans chaque vie et sur tous les continents le chaos de 1940. Malgré tous leurs efforts pour demeurer au sommet, la défaite française perdit finalement aussi la comtesse de Porte et la marquise de Crussol. Quant à leurs compagnons, ils se retrouvent désormais seuls face à l'ennemi qu'ils n'ont pas su repousser. Secondé par son vice-président Pierre Laval, le maréchal Pétain obtient les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940 et cherche des boucs émissaires. Sous le gouvernement qui se met en place à Vichy, Paul Reynaud comme Édouard Daladier sont considérés comme responsables de la défaite française et jugés à ce titre. D'hommes d'État respectés sous la Troisième République, ils deviennent désormais des traîtres traqués. Il en va alors de la légitimité du nouveau régime. À Vichy, on s'occupe beaucoup de trouver des accusés que l'on puisse commandément charger des responsabilités du désastre, commande de Gaulle depuis Londres dès le mois de septembre 1940. Il y aura certainement quelques jours en France un vrai procès des responsabilités. Mais il y a tout lieu de croire que certains des accusateurs d'aujourd'hui siégeront alors au banc des accusés. Édouard Daladier et Paul Reynaud sont arrêtés, puis emprisonnés au même titre que Léon Blum, le général Gamelin ou encore Georges Mandel. Édouard Daladier, Léon Blum et le général Gamelin seront déférés devant le tribunal de Rion dans le Puy-de-Dôme en 1942, mais le procès inachevé n'aura pas l'effet escompté. Les efforts de défense et d'armement entrepris sous les gouvernements de Blum et Daladier sont en effet manifestes et certains accusés parviennent à présenter une défense si solide qu'elle menace de se retourner contre le régime en place. La chasse aux coupables est donc écourtée devant les tribunaux. Mais tous les indésirables sont livrés à l'Allemagne. Paul Reynaud et Georges Mandel, qui ne sont finalement pas poursuivis, sont déportés comme tous les autres. Après la guerre, Édouard Daladier et Paul Reynaud reprendront finalement leur carrière politique en tant que députés sous la 4e République, sans pouvoir bénéficier de l'appui respectif de Marie-Louise de Crussol et Hélène de Porte, qui ne furent pas leurs meilleures conseillères.
Au cœur de l'histoire.
Stéphane Bern.
Bonjour Damien Roger, merci d'être avec nous sur Europe 1.
Bonjour Stéphane Bern.
Vous êtes haut fonctionnaire et auteur du roman Vanité des vanités aux éditions Priva. Au tout début de votre roman, avant même de plonger dans l'histoire, vous avez écrit « Les livres d'histoire jusqu'ici ne se sont pas penchés sur les destins d'Hélène de Porte et de Marie-Louise de Crussol. À bien des égards, on peut s'en étonner. » Ce roman, élaboré dans le strict respect des témoignages et des documents d'archives, tente de réparer cet oubli. Justement, comment expliquez-vous que nous n'ayons jamais entendu parler de ces deux femmes, dont le rôle a pourtant été décisif dans les années cruciales que sont l'année, par exemple, 1940 ?
Et écoutez, j'étais très surpris de découvrir que les Français de 1940 connaissaient parfaitement Hélène de Porte et Marie-Louise de Crussol. J'ai découvert d'ailleurs que la presse américaine était absolument captivée par la figure de la comtesse de Porte. Elle lui consacrait des chroniques, des unes, des dossiers entiers, et elle l'a surnommée la Dubarry moderne. Il est vrai néanmoins que ces deux femmes ont été aujourd'hui quelque peu oubliées. Je crois que les historiens sont assez réticents finalement à expliquer le cours de l'histoire par le gouvernement de l'alcôve, la tragédie du boudoir, ce que l'ancien président Poincaré appelait les influences d'oreiller. Et pourtant, on sait qu'en effet, ces femmes ont eu un rôle déterminant. Je remarque aussi que depuis quelques années, il y a une volonté de réhabiliter le rôle, la place des femmes dans l'histoire. Et évidemment, c'est un petit peu moins facile lorsqu'on a des figures qui ne sont pas des figures féminines positives, comme la comtesse de Porte et la marquise de Crussol. Mais en tout cas, moi, j'avais envie de les remettre sur le devant de la scène, les remettre dans la lumière qu'elles ont finalement cherchée tout au long de leur vie.
Damien Roger, pourquoi avez-vous décidé de consacrer un roman à cette partie de notre histoire, à savoir les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale et la défaite de 1940 ?
Alors, Pour moi, ce moment de 1940, c'est un moment de bascule absolument incroyable. Alors, nous avons tous, bien sûr, en tête l'image, les images de l'Exode, ces milliers, millions de Français qui se jettent, en fait, sur les routes pour fuir l'avancée des troupes allemandes. Les images aussi de l'arrivée des troupes du Reich dans Paris. Et bien sûr, il y a cette armée française, cette armée qui a alors la réputation d'être la plus forte du monde, qui va se trouver défaite, écrasée en à peine quelques jours. Donc je crois qu'il y a évidemment une défaite militaire. On a parlé d'un réarmement qui avait été insuffisant, d'une stratégie militaire qui était également sans doute inadaptée. Mais on voit bien que cette défaite, elle est aussi l'aboutissement d'une défaite morale, en fait, beaucoup plus large. Et donc, pour comprendre cette étrange défaite, pour citer Marc Bloch, je crois qu'il y a besoin justement de se replonger dans cette période trouble des années 30, qui est une période évidemment de crise très forte, vous l'avez dit, une période de polarisation politique. On pense à la crise du 6 février 1934, à l'arrivée du Front populaire en 1936, cette montée des périls en Europe. La France est quand même entourée de pays qui ont fait un choix qui n'est pas celui de la démocratie. Hitler en Allemagne, Mussolini en Italie, Franco en Espagne. Il y a aussi un certain nombre de groupes en France, de mouvements, je dirais, de rénovation politique, des mouvements technocratiques qui cherchent à se rapprocher avec l'Allemagne. Je pense au comité, notamment au comité France-Allemagne. Un certain nombre de mouvements aussi, de sociétés plus ou moins secrètes. Je pense à la Synarchie, qui aurait joué un rôle aussi déterminant dans cette volonté de recherche, disons, d'une troisième voie et d'un rapprochement avec l'Allemagne. Et donc, il y a bien sûr aussi tout ce qui va se passer au cours de ce printemps 1940, ces tractations, ces intrigues, ces équilibres, cet équilibre politique précaire entre, d'un côté, les pacifistes, le clan des mous, on dit parfois, et le clan des partisans, des bellicistes, qui sont partisans d'une ligne de fermeté vis-à-vis de l'Allemagne. Et donc, j'ai eu envie de revenir sur ce contexte qui a conduit finalement à cet effondrement de 1940. Et je crois aussi que ce moment de 1940, à bien des égards, il trouve des échos dans la période que nous connaissons aujourd'hui.
Et comment vous avez découvert le rôle de ces deux femmes ? Vous êtes tombé sur des archives, sur des documents, sur...
Ben, écoutez, moi je suis absolument passionné par cette période de l'occupation, de la Seconde Guerre. Et il est vrai que j'avais identifié cette personnalité d'Hélène de Porte et de Marie-Louise de Crussol qu'on voit citée dans un certain nombre de documents. Et je me suis lancé dans des recherches approfondies. Alors d'abord, j'ai mobilisé bien sûr des archives, l'archive historique a constitué le matériau de base, je dirais, de ces recherches. Je me suis aussi beaucoup appuyé sur des titres de presse et sur des mémoires des protagonistes et témoins de l'époque. Comme vous l'avez dit, un certain nombre de personnes ont eu à cœur de raconter en fait ce qui s'était passé au cours de ce printemps 1940, des hommes politiques, des conseillers ministériels, des journalistes, des chroniqueurs mondains. Et beaucoup en fait ont raconté dans le détail ces journées à Paris, Tours puis Bordeaux au cours du mois de mai-juin 1940. Et donc j'ai croisé ces différentes sources, ce qui m'a permis de reconstituer jour par jour, je dirais même heure par heure, les événements qui ont mené jusqu'à l'armistice. Et donc, ça m'a également permis aussi de mesurer l'influence absolument déterminante de la comtesse de Porte dans ces journées décisives qui ont vu basculer le destin de la France.
Mais quelle est la part de fiction et la part de réalité ? Tous les faits sont vrais, mais vous avez romancé leur vie ?
Alors, j'allais dire tout est vrai. Tout est vrai dans le sens où j'ai scrupuleusement respecté la réalité historique des faits, leur déroulé, leur matérialité. Même une grande partie des dialogues du livre ont été rapportés par des témoins. Donc j'avais vraiment à cœur de respecter cette véracité psychologique des personnages. Et donc j'ai cherché à restituer avec fidélité non seulement les événements historiques, mais j'allais dire l'ambiance et aussi les rapports humains et la psychologie des personnages.
Damien Roger, j'aimerais maintenant que l'on s'intéresse plus en détail à nos deux protagonistes du jour. Comment est-ce que vous analysez les personnalités respectives d'Hélène de Porte et de Marie-Louise de Crussol ?
Ce sont des femmes qui sont extrêmement ambitieuses, mais qui ont des tempéraments très différents. Hélène de Porte, elle a une personnalité volcanique. C'est une femme passionnée qui met la même ferveur dans les affaires politiques et dans les affaires de cœur. Je dirais que c'est une femme entière, incapable de dissimulation, et elle agit dans ce qu'elle croit être l'intérêt de son amant, Paul Reynaud, dont elle est profondément éprise. La marquise de Crussol, elle est davantage un animal à sang-froid, qui agit par calcul, et on peut dire peut-être qu'il se sert un peu de Daladier pour servir sa propre ambition et ses propres projets. Elle pose un peu à l'intellectuel, et le duo qu'elle forme avec son amant, c'est une relation platonique. Ce duo, je dirais, c'est avant tout une association d'intérêts.
Quelles étaient leurs convictions politiques et idéologiques à chacune, si elles en avaient ? Parce que parfois, on a l'impression que tous les moyens sont bons pour accéder au pouvoir.
Hélène de Porte penche à droite. À Marseille, son père fréquentait les marins traditionnellement hostiles à l'Angleterre. Et donc, plutôt que germanophile, moi, je dirais que Hélène de Porte, elle nourrit une profonde défiance vis-à-vis des Anglais et des Américains. Hélène de Porte, comme vous dites, c'est aussi un esprit ductile que les revirements n'effraient pas. Et donc, en 1938, au moment des accords de Munich, elle pourfend la mollesse de Daladier et de la marquise de Crussol, sa rivale. Et finalement, à partir de 1940, toute la fougue qu'elle avait mise à combattre les Munichois, elle va la mettre à tenter d'infléchir la politique de Paul Reynaud, qu'elle cherche à détourner du parti de la guerre. Et donc, elle s'efforce de nommer des personnalités du clan pacifiste dans l'entourage du président du Conseil. La marquise de Crussol, elle est aussi issue d'une famille conservatrice, mais ses combats féministes, notamment en faveur du suffrage des femmes et son rapprochement avec Daladier, l'ont conduit à se positionner au centre-gauche de l'échiquier politique. Dans son salon de l'avenue Henri Martin, elle va tisser tout un réseau de relations mondaines, littéraires, politiques, internationales aussi. Donc elle reçoit, comme vous l'avez dit, des intellectuels, des écrivains. Alors, des intellectuels favorables à l'alliance franco-soviétique, mais aussi des dirigeants de la haute finance. Avec les premiers, elle se montre intransigeante, elle fustige le pouvoir des 200 familles. Et avec les autres, elle tente finalement d'amadouer les milieux financiers. Et donc, en définitive, la marquise de Crussol, elle prend soin de se tenir, je dirais, à l'extrême centre. Mais c'est très difficile dans une période, je dirais, de polarisation politique très forte. Et donc, durant la crise de 1934, on la surnomme la marquise rouge. Et à partir de 1938 et la dislocation du Front populaire, on dit qu'elle aurait été la principale instigatrice des décrets Daladier qui vont inaugurer un glissement vers une politique beaucoup plus droitière. Donc je crois qu'en définitive, il ne faut pas sous-estimer la part d'opportunisme dont chacune de ces deux femmes a pu faire preuve.
Est-ce que la clé de leur ambition n'est pas dans le titre de votre roman, La Vanité ?
En effet, je crois qu'elles ont en commun finalement d'être toutes les deux issues de familles récemment enrichies. Et donc je crois qu'on peut les voir un peu comme des Rastignac en jupon. Comme vous l'avez indiqué, ce sont de riches provinciales montées à Paris au tournant des années 20 pour convertir la fortune familiale en situation sociale enviable. Elles y parviennent, elles font ces beaux mariages, elles deviennent marquises et comtesses. Et donc Marie-Louise épouse le fils du premier duc de France, petit-fils de la célèbre duchesse d'Uzès, née Rochechouart-Mortemart. Descendante de Madame de Montespan et de la veuve Clicquot, personnage paradoxal.
Amie de Louise Michel.
Amie de Louise Michel, absolument.
Pas rien. C'est pas la première femme à avoir eu le permis de conduire.
Tout à fait, oui. Et donc, Marie-Louise, il y a une part d'ambition sociale qui reste inassouvie malgré ses beaux mariages. Marie-Louise de Crussol est une des toutes premières femmes à étudier à Sciences Po. Et quelques années plus tard, elle se rue à Genève où la Société des Nations vient d'être créée et elle appartient à ce qu'on appelle alors les sirènes de Genève, à l'instar de Louise Weiss ou d'Edmé de la Rochefoucauld, ces femmes qui entendent peser en fait sur la politique internationale, ces femmes qui vont en ambassade, qui font éclore dans leurs alcôves des pensées politiques, qui président parfois à la naissance d'États nouveaux. Et la comtesse de Porte, elle aussi, finalement, va également chercher à peser sur la politique, ouvrir en effet ce salon Avenue Foch, un salon qui est ouvert aux parlementaires et aux politiciens de la droite parlementaire. Et elle organise des soupers politiques où elle reçoit des journalistes du Figaro, des hiérarques de la banque Worms, des monarchistes et des amis du comte de Paris. Elle va même jusqu'à assurer le comte de Paris du soutien du républicain Paul Reynaud, très surprenant également. Finalement, ces femmes, elles ne souhaitent pas être cantonnées à des rôles de salonnières ou d'égérie un peu éthérées. Elles, ce qu'elles veulent, c'est le pouvoir. Et je crois qu'à une époque où les femmes ne disposaient d'aucun droit politique, il y a pour elles une profonde satisfaction à arracher ce pouvoir aux hommes et à devenir finalement incontournables sur la scène publique et dans les affaires publiques.
Mais comment ces deux femmes étaient-elles perçues par leurs contemporains ? J'ai raconté le mot un peu dur du général de Gaulle sur Hélène de Porte lorsqu'elle perd la vie, mais elles étaient perçues comme des... elles étaient craintes, elles étaient admirées, elles étaient respectées. Il y a des scènes dans votre livre où on voit que Paul Reynaud est alité et c'est Hélène de Porte qui dirige tout et qui nomme les gens, qui...
En fait, je crois qu'elles étaient... elles agaçaient beaucoup de monde, en fait. Et en effet, on les critique, on les vilipende, mais quand on est face à elles, on sait qu'elles sont aussi incontournables pour pouvoir accéder à leurs hommes, à leurs compagnons. Les témoignages des contemporaines ne sont pas tendres. Je pense notamment à l'écrivain André Mauroy, qui en 1941 écrit dans son ouvrage « Tragédie en France ». C'était une personne un peu folle que la suite des événements allait faire apparaître comme dangereuse. Je pense aussi au président du Sénat, Jules Jeanneney, qui la qualifie d'inquiétante personne. Le ministre de l'Intérieur, Georges Mandel, parle de femme infernale. Et Winston Churchill l'appelle le perroquet, parce qu'elle répète justement tout ce qu'elle entend. On n'est pas tendre non plus avec la marquise de Crussol, qu'on qualifie de moderne Jézabel. On l'accuse également d'entretenir le goût pour la boisson de son compagnon Daladier. Et donc, il y a vraiment, évidemment, il y a une misogynie dont elles ont eu à souffrir. Vous avez cité le général de Gaulle qui s'exclame en 1940, apprenant l'accident, « J'espère qu'elle est crevée, la salope ». En 1965, il confie à l'historien Henri Amouroux, « C'était une dinde comme toutes les femmes qui font de la politique ». Donc, vous voyez, il y a cette misogynie quand même très forte. On refuse, en fait, que ces femmes puissent jouer un rôle. Et finalement, je crois qu'on a fait payer à ces femmes l'impuissance politique de leurs compagnons en mettant sur leur dos la responsabilité de la défaite. Et je crois qu'il y a un parallèle à faire, notamment avec Marie-Antoinette, qu'on a également, à son époque, accusée d'être à l'origine de tous les maux du pays.
Oui, mais parce que l'homme était faible.
Parce que l'homme était faible, oui.
Si Hélène de Porte a connu un destin tragique en trouvant la mort dans un accident de voiture, Marie-Louise de Crussol était à Alger lors de la défaite de 1940. Quand et comment s'est passé son retour en France ?
Donc après son séjour à Alger, Marie-Louise de Crussol regagne la France au mois d'août 1940. Elle ne cherche pas à revoir Daladier, qui très vite va être emprisonné, puisqu'il est la cible du gouvernement du maréchal Pétain. Elle ne lui rend jamais visite en prison durant cette période. Et elle engage une procédure de divorce à l'encontre de son époux, Emmanuel de Crussol. J'étais très surpris de découvrir que dès l'automne 1940, la marquise de Crussol tente un retour en politique en se rendant à Vichy, alors que a priori elle est plutôt justement persona non grata. Et en fait, finalement, ce séjour se passe mal. Dans la rue, on murmure sur son passage. Le ministre de l'Intérieur, Marcel Pérouton, juge sa présence indésirable et le lui fait savoir. Et donc, elle doit partir le jour même. Et à la gare de Vichy, à ce moment-là, une manifestation est organisée. Un certain nombre d'anciens combattants veulent lui remettre une gerbe, un bouquet, avec cette mention de la part de nos 60 000 morts, parce qu'on considère que la marquise de Crussol est au premier chef responsable de cette défaite de 1940. Et à ce moment-là, donc, elle est accompagnée de son frère, et elle aurait eu ce mot étonnant, « Ils ne savent pas qui je suis, je vais le leur dire. » Et son frère aurait rétorqué, « Ils ne le savent que trop malheureuse », avant de l'engouffrer dans le wagon. Et donc, à partir de ce moment, et tout au long de la guerre, elle reste à Paris, mais elle se fait discrète. Et en 1951, elle se remarie avec son ex-époux, devenu entre-temps le nouveau duc d'Uzès. Ce dernier meurt 3 mois plus tard. Désormais, elle est duchesse d'Uzès.
Douairière.
Duchesse douairière. Et elle va s'atteler à la restauration du château et du domaine familial dans le Gard. Et elle s'éteint en 1991 à l'âge de 87 ans.
Vanité des vanités, Damien Roger, votre deuxième roman, le premier, intitulé « Arienne d'honneur », racontait l'histoire de 3 femmes juives dont les familles étaient proches du maréchal Pétain. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le destin des femmes qui sont emportées par le tourbillon de l'histoire, et particulièrement de la Deuxième Guerre mondiale.
Le fait que ces femmes soient passées complètement finalement sous les radars a constitué pour moi une opportunité pour mener des recherches inédites finalement sur ces femmes, des femmes oubliées, des femmes au destin aussi quand même particulièrement complexe. Je pense aux Ariane Donner, la marquise de Chasse-Louloba, la baronne de Langlade et la comtesse d'Aramon, toutes trois Nechtern, qui sont des proches du maréchal et de la maréchale, et qui vont se retrouver confrontés à une situation très complexe, rattrapés par une identité qu'elles ont cherché toute leur vie à effacer. Avec la comtesse de Porte et la marquise de Crussol, on a affaire à des trajectoires un peu différentes, mais également, je dirais, elles ont en commun d'être dans des trajectoires d'ascension sociale qui vont être finalement confrontées à l'histoire. Et donc, j'ai eu envie, en fait, finalement, d'explorer avec des yeux neufs cette période passionnante qui est celle de l'occupation.
Merci beaucoup, Damien Roger, de nous avoir accompagnés cet après-midi au cœur de l'histoire d'Hélène de Porte et de Marie-Louise de Crussol, deux femmes rivales dans l'ombre de la défaite de 1940. Je rappelle que votre roman « Vanité des vanités » est disponible aux éditions Priva.
C'était au cœur de l'histoire et vous retrouverez Stéphane Bern aujourd'hui, mercredi, toujours de 15h à 16h sur Europe 1. Il nous racontera l'histoire de la première combattante de la France libre qui a dactylographié l'appel du 18 juin, Elisabeth de Miribel. Et dans un instant, la libre antenne d'Europe 1, la libre antenne avec des témoignages à redécouvrir. Pour côté musique, on vous propose un bon vieux Genesis, That's All, un titre de 1983.
Was going alright. I found out I'm wrong when I thought it was right. It's always the same, it's just a shame. That's all. I could say day and you'd say night. Tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame. And that's all.
Where I could say day.
Genesis, That's All. Bonne nuit avec nous sur Europe 1. On va poursuivre notre promenade nocturne avec les témoignages de la Libre Antenne. Les auditeurs d'Europe 1 qui ont choisi la Maison Bleue pour se confier, que ce soit avec Olivier Delacroix du lundi au jeudi ou alors avec Valérie Darmon du vendredi au dimanche. On est là pour vous. Voilà, c'est à partir de 22h45 ou 22h30 et jusqu'à 1h. Et puis toutes les nuits, on redécouvre quelques-uns de vos témoignages. Allez, place à notre séance de rattrapage. C'est la Libre Antenne en nouvelle diffusion.
Bonsoir Roxana.
Bonsoir Valérie.
Merci d'être avec nous.
Je merci à vous de m'accueillir. Excusez-moi Valérie, je vous entends de loin. J'entendais très bien Amandine, mais vous je vous entends mal.
Ah, alors, je vais regarder Yann, qui est notre réalisateur ce soir, en remplacement de Tristan, qui a pris un petit week-end, pour peut-être essayer de pousser un peu le son de mon micro. Est-ce que vous m'entendez voilà. mieux, Roxana ? Vous m'entendez mieux ou pas ?
Un petit peu mieux.
Peut-être faut-il essayer de replacer votre téléphone, votre combiné, peut-être
un petit peu mieux. Oui, je connais la manip. C'est ce que je suis en train de faire.
On va voir. Vous m'appelez d'où, Roxana ? De quelle région ? Vous avez un petit accent du sud ?
J'habite à Lyon.
À Lyon.
D'accord. J'habite à Lyon. Et je vous appelle pour parler, de l'éducation.
Oui. Vaste sujet.
De l'éducation aux valeurs.
Oui. Vous êtes maman ?
Je suis maman de deux enfants.
Oui, qui ont quel âge ?
J'ai 56 ans et j'ai des enfants qui ont 18 ans de différence. Et mon cadet, il a 12 ans.
D'accord. C'est le même papa ?
Non. Non, mais ça n'a aucune importance.
Non, ça n'a aucune importance. Mais quand il y a 18 ans d'écart, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que les deux frères sont proches avec ce grand écart d'âge comme ça ?
J'ai une fille, une grande fille et un garçon. Oui, ils sont très proches, malgré le fait qu'elle n'est plus à la maison, bien évidemment, parce qu'elle a 30 ans, mais ils sont très proches.
Ils sont très proches. Alors, pourquoi parler d'éducation ? Qu'est-ce qui amène ce sujet ce soir ? Vous êtes une maman solo, peut-être, en difficulté, comme beaucoup, ou pas ?
Je suis maman solo, mais encore une fois, ça n'a pas d'importance. J'ai peur de ne pas être très claire, donc vous me ramenez,
oui,
s'il vous plaît.
Oui, bien sûr, aucun souci, je suis là pour vous, je vous écoute.
Si je suis trop évasive.
Alors, je vous écoute.
En fait, je vous appelle parce que les actualités ont beaucoup d'avoir là-dedans, mais les actualités, ils se rapprochent de plus en plus de la vie réelle, et du présent et de ce qu'on vit. Et moi, je me sens perdue, anxieuse et en colère. Perdue parce que je ne sais pas. Je ne sais pas comment
gérer.
En fait, j'ai l'impression que j'ai fait du bon boulot. Donc, c'est ça que je voulais dire.
Oui.
Je voulais parler pour les parents qui ont fait leur travail.
Très bien.
Qui ont bien éduqué leurs enfants. Et qui, normalement, devrait se sentir tranquille et rassuré. Mais ce n'est pas du tout ce que je ressens.
Et vous n'avez pas eu ce ressenti pour les aînés ?
Non, pas du tout. Et parce que j'ai l'impression que les valeurs que j'ai apprises à mes enfants, elles perdent de leur valeur. Et que les gamins se les prennent en pleine figure. Au quotidien, tous les jours.
Alors, c'est-à-dire, Roxana ?
Je vais parler des valeurs de base. Hein. Je ne vais même pas aller dans les trucs compliqués. C'est-à-dire, pour moi, les valeurs de base, c'est politesse, respect et bienveillance.
Oui.
Et on en manque beaucoup. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai... peut-être un petit peu comment je fais moi pour comprendre comment vient cette question. Donc effectivement, j'ai élevé mes enfants seuls, les deux. Et je ne suis pas, je suis dans un milieu plus que modeste, c'est-à-dire mes revenus, c'est le SMIC, j'habite en HLM. Et je ne supporte pas d'entendre que l'éducation dépend de moyens, de niveau de revenus.
Ah, ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a vraiment rien à voir. Alors là,
on est bien d'accord, parce que pour apprendre le respect, la bienveillance et la politesse, on n'a pas besoin d'argent.
Non, ça n'a vraiment, vraiment rien à voir. En revanche, voilà. Ce qui a à voir, c'est est-ce qu'il y a eu la présence quand même des papas respectifs ou pas ?
Oui.
Ah, voilà, ça c'est important quand même qu'il y ait cet équilibre. Hein. Ça, c'est tout de même. Après, il y a des parents solo qui font du très bon boulot aussi, mais c'est mieux quand il y a une représentation parentale masculin-féminin, quoi, quand même.
Bien sûr que c'est mieux, mais ce que je veux dire, c'est que pour apprendre les valeurs des enfants, la seule chose dont on a besoin, c'est de les avoir soi-même.
C'est ça, de les intégrer, de les vivre en fait, hein.
Voilà, donc il faut déjà que les parents aient des valeurs, et les enfants, ils ne sont pas idiots, ils comprennent.
Oui.
Ils comprennent.
Donc votre fils...
Mais voilà. Et là, j'ai l'impression que je leur apprends une chose à la maison, mais... Quand ils grandissent, quand on lâche leurs mains et ils font leurs propres expériences, ils découvrent que, mais maman, qu'est-ce que tu m'as raconté, mais c'est pas comme ça que ça marche ailleurs. Parce qu'on a partout des injures, des insultes, des comportements complètement décalés. Et je suis en colère contre le milieu scolaire qui est censé de nous aider à maintenir ces valeurs et qui, en fait, je trouve qu'ils les détruisent. Qu'ils les détruisent par son inaction.
Oui, parce qu'ils sont des missionnaires.
Exact, vous avez tout compris, Valérie. Et moi, je fais expérience de tout ça depuis la maternelle. En maternelle, déjà, ça commence même avant. C'est quand on arrive sur les aires de jeu. Je me souviens comment j'étais désemparée sur ces aires de jeu où il y a des gamins qui ne sont pas surveillés par leur maman, parce que les mamans sont à côté en train de discuter entre elles, ils ne regardent pas du tout ce qui se passe. Et pour défendre les valeurs que j'apprends à mon fils, je pouvais pas faire autrement, par exemple, qu'on me reprendre un gamin qui dit n'importe quoi, ou même parfois attraper la petite main qui part dans un geste violent. Et là, la maman se réveille et elle arrive en courant et pour vous insulter.
Oui.
Voilà. Et puis, mon gamin, il avait 4 ou 5 ans quand il m'a posé la question, mais maman, pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui font des bêtises et leurs parents ne leur disent rien. Je lui ai répondu, parce qu'il y a des parents à qui on n'a pas appris ce genre de choses. Quand il est allé en maternelle, c'est les gamins de 3-4
oui,
ans.
Oui.
Une fois, elle est rentrée choquée parce qu'il y avait une bagarre et un gamin se retrouvait par terre à recevoir les coups de pied. Il était choqué. Le lendemain, je parle à la maîtresse et je lui demande « Mais pourquoi on m'a rien dit ?» Elle me répond « C'était rien, c'était des chamailleries. » Aujourd'hui, les chamailleries continuent, mais les gamins, ils ont leur couteau à la main.
Oui, oui. Et surtout, c'est banalisé. Oui.
Mais c'est incroyable comment c'est banalisé.
Il faut arriver jusqu'au drame pour qu'on commence à se réveiller.
Oui.
Sans avoir de solution très concrète, à proposer, surtout. Oui.
Oui. Puis, pareil, en maternelle. Pendant la réunion des parents, il y a une maîtresse qui avoue qu'elle n'arrive pas à faire le programme d'enseignement qu'elle a parce qu'elle passe son temps à gérer les enfants ingérables. Et puis elle dit, c'est pas que j'en ai un ou deux, c'est que j'en ai 10. Et que je ne peux rien faire. Il a vu les copains. À chaque fois qu'elle se faisait un copain, le copain l'année suivante, partait en école privée. Chaque année. Moi, je n'ai pas les moyens pour une école privée. Donc, je me suis quand même renseignée, mais j'ai déposé un dossier, mais il n'y avait pas de place.
Oui. Il est en quelle classe aujourd'hui ? Il est en quelle classe, votre fils, aujourd'hui ?
En sixième. Il a 12 ans. Voilà. Bon, j'ai eu la chance parce que mon enfant s'intéresse à la musique. Il m'a demandé de lui faire jouer de l'instrument. Pareil, je n'ai pas les moyens pour lui payer l'école de musique, ni les cours privés. C'est hyper cher. Donc, je l'ai préparé pour un concours de classe horaire aménagée musique.
Oui. Là, normalement, les fréquentations devraient être différentes. Hein.
Voilà. Donc, en CE1, il a été sélectionné.
Oui.
Et je me suis tranquillisée parce que c'est une classe où les enfants sont bosseurs, où on sélectionne sur le dossier scolaire parce qu'il faut... Il faut pouvoir assurer de côté et l'école et les cours de musique. Voilà, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de travail. C'est pas évident pour tous. Donc c'est le milieu de rêve, quoi, pour n'importe quel enseignant. Et qu'est-ce qui a provoqué cet appel? C'est parce qu'il y a quelques jours, il me dit, j'ai un enfant qui me dit tout.
C'est une grande chance.
Oui, donc je croise les doigts que ça dure. Parce qu'il rentre de l'école et je le vois énervé, alors que c'est un gamin très posé. Énervé et agacé, il me dit, maman, on a eu le contrôle surprise, mais c'est toute la classe a été punie, parce qu'il y a un enfant, et en plus, il ne voulait pas me dire le nom. Je dis, mais qui c'est, je le connais. Il me dit, maman, c'est cool s'il me protégeait déjà. Il n'a pas voulu dire le nom, mais un enfant qui, tous les jours, perturbe les cours. Et les professeurs, soit ne lui disent rien, soit ils ne cherchent pas qui c'est, et voilà, soit voilà, ils ont puni toute la classe. Et ça se répète d'un jour en jour. Et il me dit, mais j'en ai marre, maman, j'en peux plus. Et agacé vraiment. Et moi, naturellement, je lui réponds, mon chéri, mais tu sais bien que s'il y a quelque chose qui te dérange, tu peux le dire au professeur. Et puis, je m'arrête au milieu de la phrase. Parce que je pense, mais comment est-ce que le prof, elle va gérer tout ça? Est-ce que le gamin en question, elle va apprendre d'où ça vient? Comment elle va réagir? Parce que le gamin qui fait déjà l'expérience d'impunité depuis plusieurs jours, semaines, voire mois, où sont ses limites dans la réaction?
Ça va créer un enfant tout puissant. Ça va créer un enfant tout puissant.
Voilà. Oui. Comment elle va réagir? Est-ce que je ne mets pas mon fils en danger? Est-ce que je ne lui porte pas un préjudice en lui donnant un conseil pareil? Mais en même temps, c'est complètement contraire à mes valeurs, à ce que je lui ai appris. Et voilà, de mon sentiment, être perdu.
Vous pouvez aussi, vous, intervenir auprès de la professeure principale, hein?
Oui, mais ça sera le même effet. Hein. Comment elle va gérer? Est-ce qu'il est parent, au moins,
vous incarnez les valeurs que vous transmettez à votre enfant.
Oui.
Si vous réagissez, hein, d'où l'intérêt aussi que les parents protègent les enfants, c'est important qu'ils se sentent protégés.
Exactement.
Voilà, et cohérent. Au moins, vous allez au bout de la démarche. Après, bon, malheureusement, l'établissement fait ou ne fait pas. Mais en tout cas, vous allez au bout de la démarche, vous.
Mais je pense que je vais le faire. Je me suis dit que je laisse couler cette année. Il reste quelques semaines.
Là, c'est pas la peine forcément de remuer ciel et terre.
Exactement. Mais si ça continue l'année prochaine, et bien pas parce que ce sera la même classe, forcément, les mêmes enfants, ils se retrouvent tous les ans, je vais le faire. Mais entre-temps, je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant à qui on dit une chose et qui, au quotidien, au collège, voit que cette chose-là, c'est-à-dire on lui apprend qu'il y a des règles qu'il faut respecter, et de jour en jour, au collège, en maternelle, partout, il constate par lui-même que ces règles-là ne sont pas valables
ne sont
pour
pas
tout
valables.
Le monde.
Il faut lui parler de capacité d'adaptation, Oksana.
Oui.
Parce que la vie, ce n'est qu'une succession d'adaptation aux situations qui se présentent.
Oui.
Donc, lui dire que vous, voilà, c'est les valeurs que vous choisissez de défendre, que vous les incarnez, que sa grande sœur, elle les vit, qu'on choisit qui on veut être aujourd'hui, hein, dans le monde.
Oui.
Mais que, par contre, la récurrence, c'est effectivement cette nécessité de s'adapter à ce qui nous entoure, et que bah, parfois, c'est la jungle, que parfois, ça peut être le bord d'un lac, le lac de Genève, et donc là, c'est calme et tranquille et neutre, et que d'autres moments, bah, c'est malheureusement, il faut faire avec l'adversité, avec des gens qui vont être agressifs. Voilà, il faut lui parler d'adaptabilité.
D'accord.
C'est important, cette capacité d'adaptation.
Oui.
Mais
oui.
C'est important de l'interroger aussi sur pourquoi ce niveau d'irritabilité ou de nervosité aujourd'hui davantage. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la fin de l'année? Est-ce qu'il y a des choses qu'il a pas tout, où il n'a pas tout dit non plus? Parce qu'il se sent dans l'obligation de protéger ses petits copains. Quand il dit « j'en peux plus, maman, j'en peux plus ben », de quoi il n'en peut plus exactement? Peut-être, si vous sentez qu'il est vraiment...
Je pense savoir, parce que je suis un peu comme lui, je pense que c'est un sentiment d'injustice, en fait. Parce que les enfants, ils attendent que...
Et que les adultes montrent la voie. Et vous avez raison.
Exactement.
Oui, vous avez
exactement.
Raison.
Exactement. Je pense qu'il fait face à ce sentiment de l'injustice. Vous voyez, il m'en a parlé quand toute la classe a été punie.
Oui. C'est là votre rôle de parent.
Et là, il a été touché par l'injustice de la chose.
Oui. Mais c'est là votre rôle de parent de dire j'entends, évidemment, c'est évidemment injuste, surtout quand ça fait plusieurs jours que ça dure. Donc, on va faire de son mieux. Je vais mettre un mot dans le cahier. Je vais rencontrer le prof principal. Voilà, faisons de notre mieux jusqu'au bout. Après, on ne peut pas garantir que l'établissement va bouger, mais ça ne m'appartient plus. Mais au moins, tu vois, je fais la démarche jusqu'au bout. Voilà, allez nourrir d'autres valeurs. Rajoutez des valeurs sur vos valeurs. L'adaptabilité, la capacité d'adaptation. L'acceptation que peut-être qu'à l'extérieur, c'est un petit peu la jungle et qu'il va falloir faire avec. Rétablir la vérité avec, moi, je vais au bout de la démarche et je fais de mon mieux. Après, ça ne m'appartient plus. Vous voyez, tout ça, c'est d'autres enseignements que vous allez lui donner par rapport à la situation
D'accord.
qu'il traverse. Je crois que c'est important.
Oui, je pense aussi.
Il fait du sport, votre petit garçon ?
Oui, il fait le taekwondo.
Ah, très bien. Voilà, très bien. Parce que le sport, c'est un facteur tellement équilibrant. Voilà, sport et musique, c'est-à-dire créativité, mouvement, plus l'école. Et avec les valeurs que vous allez renforcer en lui tenant ses discours, parce que vous n'avez pas d'autre choix, vous ne pourrez pas agir sur le monde qui l'entoure. Par contre, vous pouvez l'armer, entre guillemets, et au sens noble du terme, pour affronter ce monde qui l'entoure.
Et il y a un petit truc qui me gêne.
Oui.
Dans le terme « adaptation », j'entends un petit bout de la soumission.
Non, je n'ai pas dit suradaptation. Hein. Quand on se suradapte, il peut y avoir une notion de sacrifice, une notion de soumission, une notion de j'accepte de subir. Là, on ne parle pas de suradaptation, on parle juste d'adaptation.
Mais n'est-ce pas ce qu'il vit là, tous les jours avec ses expériences au collège et avec le personnel démissionnaire? En fait, on leur apprend la soumission aux absences des valeurs.
Oui, mais là, on ne parle pas de soumission, on ne parle pas d'absence des valeurs. Vous allez rajouter des valeurs sur vos valeurs. C'est-à-dire que vous allez rallonger la liste de vos valeurs. En disant, j'entends tout ce que tu dis, effectivement, c'est injuste. Alors, on va faire de notre mieux, on va écrire au prof principal, je vais demander un rendez-vous au prof principal, mais après, en revanche, une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez faire, évidemment qu'il faut accepter la situation telle qu'elle est. Et c'est là qu'on s'adapte. Et la vie, c'est l'adaptation. De toute manière. Parce qu'il y aura des tempêtes, comme il y aura des paysages beaucoup plus calmes et beaucoup plus beaux. Et on n'a pas que d'autre choix que de faire avec ce qui se présente. Évidemment, en faisant de son mieux. Hein. C'est là où vous allez rajouter la liste de vos valeurs.
Oui. Mais j'ai l'impression, et je pense que c'est plus l'impression, qu'il ne veut pas que j'intervienne, qu'il a peur de ce que ça peut donner. Que déjà, c'est dans les petites têtes, pas de vagues. Maman reste à l'écart, ne t'en mêle pas. J'entends ce message qu'il m'envoie.
Alors peut-être que, de toute façon, vous êtes une maman vigilante. Vous pouvez avancer avec lui aussi. C'est-à-dire comme ça, lui, il va continuer de libérer la parole. Et vous pouvez, même si vous n'allez pas au bout de la démarche dans ce cas, parce que ça le met en mauvaise posture, c'est-à-dire parler de cette mauvaise posture. Est-ce que tu as peur ?
D'accord.
De quoi tu as peur ? Et là, parler de la soumission et de la victimisation. Vous voyez, tout ça, c'est des expériences qui permettent d'aller plus loin dans votre éducation. De toute façon, vous n'allez pas changer le monde, Oksana.
Non.
Mais par contre, vous pouvez utiliser le monde pour continuer de renforcer les ressources de votre fils et les forces de votre fils. Pour qu'il se sente, entre guillemets encore une fois, armé, j'aime pas ce terme, mais en tout cas aligné pour avancer avec ce qui va se présenter dans la vie. Et notamment dans le milieu scolaire.
D'accord.
Vous comprenez vous voyez ce que je veux dire à peu près ?
Oui, je le vois. Je le vois très bien. Donc, en fait, quelque part, il faut que...
En fait, tout ce qui se présente...
Faire de la sorte qu'il la mette un peu de distance.
Oui, il y a aussi le détachement. Évidemment qu'il y a aussi le détachement à travailler. Mais en mettant du sens. En mettant du sens. Par exemple, ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire, la vie, c'est des tempêtes, et à la fois, c'est des paysages avec un ciel bleu et un horizon dégagé. L'idée, c'est de monter et de descendre avec le bateau lorsqu'il est pris dans la vague, parce que sinon, on a des haut-le-cœur et on a envie de vomir. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, si on descend avec le bateau et qu'on remonte avec le bateau, évidemment, tout de suite, on s'adapte beaucoup mieux et on avance mieux. Donc voilà, utilisez tout ce qui se présente pour renforcer ses ressources et valoriser l'échange qu'il a avec vous quand il attire votre attention sur, par exemple, le fait que c'est toute la classe qui est punie, donc c'est complètement injuste, donc j'en peux plus maman, j'en ai ras-le-bol. Justement, allez parler de l'injustice et comment on fait avec les injustices, parce que la vie est injuste de toute façon.
Oui.
On a Julien au 739-21 qui écrit « J'ai vécu ça petit. Les injustices me rendaient malade au point de ne plus dormir, donc j'étais très nerveux. Mes parents m'ont proposé un lieu pour parler avec des pédopsies. Je n'aurais jamais accepté qu'ils interviennent parce que je suis hypersensible. »
Voilà.
Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment quelque chose de subtil. L'essentiel, c'est la communication avec votre fils et qu'au détour de cette communication et des expériences qu'il vit, lui, au collège, d'aller rajouter de bonnes valeurs. C'est une source d'éducation, tout ça.
Ouais.
À chaque fois.
Je crois que vous m'avez montré la lumière, Malérie.
Écoutez, tant mieux, Oksana. C'est un peu mon rôle. Si j'y arrive, je suis ravie.
Non, mais vraiment, là, je m'étais sentie un peu dans le tunnel et là vous m'avez montré la lumière. Donc je vais essayer, j'ai compris le cap.
Bon écoutez, tant mieux si j'ai pu vous aider, si j'ai pu aider votre petit garçon. Et puis faites-lui confiance aussi, il me paraît très équilibré. Donc restez bien vigilante comme vous le faites, parce que dans ce monde d'aujourd'hui c'est toujours mieux. Et de toute façon c'est toujours mieux, quoi qu'il arrive quand on est parent. Et puis je crois qu'il tient le bon bout, le sport. La musique, une maman présente. Bon, faites confiance aussi à votre petit garçon. Renforcez bien ses ressources.
À lui, je lui ai fait la confiance entière.
Oui.
Mais le problème, c'est que je n'en ai pas du tout à ce qui l'entoure.
Eh oui. Mais je crois que vous n'êtes pas la seule. Dans ce monde dans lequel nous évoluons tous, on essaye de faire avec comme on peut.
Et c'est très difficile.
Très difficile, mais il faut pas perdre son cap. Il faut vraiment persister et renouveler son choix d'être qui on veut, voilà, qui on choisit d'être. Vraiment. Bien rester dans notre axe. Et essayer de prendre de la hauteur.
Ah bah de toute façon, je peux pas être autrement. C'est pas maintenant que je vais changer.
Et oui, oui, non, mais je dis contrairement à d'autres, essayer de prendre de la hauteur. Voilà. Contrairement à d'autres, restons dans la hauteur. C'est surtout ça. Et c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de filtre. La majorité des personnes n'ont plus de filtre. Donc, ni dans les propos qu'ils tiennent, ni dans les actes qu'ils commettent.
C'est pas une question de filtre. C'est pas une question. Mmh. Valérie, j'insiste sur le mot des valeurs.
Oui, ou des valeurs.
Il y a
une perte des valeurs. Ah ben ça, c'est certain.
Il y a, parce que ça commence dans la famille. Et quand dans la famille, les parents n'ont pas de valeurs, ils n'ont rien à transmettre à leurs enfants.
Oui.
Et c'est de là que ça vient. Et au lieu de... Et justement, l'école et la société est en train de s'adapter à l'absence des valeurs. Et on voit ce que ça donne. Parce que là, je suis désolée, il faut pas, on peut pas s'adapter à ça.
Non, on peut pas s'adapter à ça. Non, c'est pour ça que je dis, il faut persister dans son choix de qui on choisit d'être dans ce monde et défendre. Ouais. Et surtout avec les enfants qui fonctionnent par mimétisme. C'est-à-dire, si vous incarnez les valeurs que vous défendez, bien sûr qu'ils vont les reprendre à leur compte. C'est toujours la même chose. D'ailleurs, on a une auditrice qui nous écrit « Si tous les parents avaient vos valeurs et éduquaient leurs enfants comme le vôtre, la France ne serait pas gangrénée par toute cette violence et le non-respect des autorités. Un grand bravo. »
Je vous remercie, mais je
ne
suis pas la seule. On est nombreux comme ça.
Oui, c'est toujours bien attirer l'attention. Il ne faut pas être des parents démissionnaires. Surtout pas. Et surtout pas aujourd'hui.
Ouais.
Merci beaucoup, Oksana, de nous avoir appelé ce soir sur l'antenne.
Merci, Valérie.
l'antenne d'Europe 1.
Roland Pérez.
Bonsoir Evie.
Hello.
J'aime bien votre voix déjà, votre voix joyeuse. Alors qu'on va aborder un sujet délicat, un sujet qui nous touche tous. Moi, il me touche beaucoup ce sujet, puisque j'en ai même fait un livre, donc je suis très sensible à ce que vous allez nous confier, Evie, et je vous laisse immédiatement parler.
C'est gentil. En tout cas, je voulais dire que même si c'est des sujets sensibles et qui nous touchent, il faut toujours essayer d'être positive. En tout cas, c'est un peu mon travail et ce qui m'a permis d'avancer.
Bravo.
Et voilà. Alors, c'est la première fois que je fais ça, donc excusez-moi si je suis un peu... si je cherche mes mots ou quoi que ce soit.
Ah non, mais vous avez...
En fait, je suis tombée sur votre...
Ce micro est à vous, donc faites-en exactement ce que vous voulez. Faites en sorte de ne pas trop bouger, simplement parce que parfois, on perd un tout petit peu vos mots et votre voix, et je sais qu'ils sont D'accord. très précieux, vos mots, donc on a vraiment envie de vous écouter totalement.
C'est noté, chef. Qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, ça, je suis déjà paumée. Non, en fait, j'ai écouté votre émission un soir en rentrant chez des amis et je ne connaissais pas du tout. Et en fait, je me suis dit, oh, c'est génial de laisser les gens parler de leur vie ou parler de choses. Et puis, j'ai vu votre film, comme beaucoup de gens qui vous ont appelé. Forcément, j'ai adoré. Voilà. Et en fait, c'était la fête des mères il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'avais envie de parler de rendre hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes qui n'ont pas eu de maman ou qui ont perdu leur maman trop tôt. Comme vous le dites, c'était le cas pour vos enfants. Et donc oui, moi j'ai eu une vie assez mouvementée et je voulais rendre hommage à ma maman avec qui j'ai repris contact d'ailleurs le jour là de la fête des mères dimanche dernier.
Alors vous avez expliqué pourquoi vous avez repris contact avant de reprendre contact. Qu'est-ce qui s'est passé alors?
En fait, moi j'ai une mère. C'était une femme tout simplement incroyablement belle et magnifique et. Et en fait, malheureusement, sa beauté lui a amené beaucoup de malheurs et de mauvaises rencontres et de gens jaloux. Et c'est horrible parce que je me rappelle d'une phrase. Un jour, elle m'a dit « Evie,